Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il a opéré le roi Soleil d'un mal fâcheux et en a retiré gloire et fortune. Pour cette opération délicate, il a dû imaginer un bistouri très spécial. Je vous raconte les prouesses royales du premier chirurgien de Louis XIV qui démontra d'une main de maître l'importance et la grandeur de sa discipline, Charles-François-Félix de Tassy. Un drôle de réveil pour un monarque absolu que celui que vit Louis XIV le 18 novembre 1686. Nous sommes à Versailles, il est 8h du matin, et dans la chambre du roi au premier étage du magnifique palais qui n'a pas encore fini de bâtir, à l'emplacement de l'ancien relais de chasse de son père Louis XIII, Louis XIV a réuni dans le plus grand secret quelques membres privilégiés de son entourage. Sa chère Madame de Maintenon, qu'il a épousée 3 ans plus tôt, est auprès de lui. Le marquis de Louvois, son ministre le plus influent, est également présent. Il y a également le premier médecin du roi, Antoine d'Aquin, ainsi que le médecin ordinaire, Guy Cressan-Fagon. Et surtout, le souverain a fait venir son premier chirurgien, Charles-François Tassy, assisté pour l'occasion de M. Bessières. Sans oublier bien sûr le père Lachaise, son confesseur, car l'affaire est de la plus haute importance. Depuis près d'un an, le glorieux roi Soleil souffre de l'arrière-train. Et après des mois de traitements aussi divers qu'inutiles, il a finalement décidé de se faire opérer. Pour connaître le déroulé précis des événements depuis que le mal est apparu, il suffit de se référer à la prise de notes exhaustive d'Antoine d'Aquin. À la suite d'Antoine Valot, et comme le fera Fagon après lui, le premier médecin de Louis XIV consigne consciencieusement le moindre trouble physique du monarque dans son journal de santé, avec des détails donnés au jour le jour et à l'heure près. Or, dès le début de l'année 1686, d'Aquin écrit que le roi se trouve confronté à, je le cite, « la plus fâcheuse et la plus pernicieuse de toutes les incommodités ». Au 15 janvier, précise-t-il, Sa Majesté se plaignit d'une petite tumeur de vers le périnée. Pendant des mois, les médecins de Louis XIV ont essayé par tous les moyens de se débarrasser de cette grosseur devenue rapidement gênante et menaçante, allant parfois jusqu'à obliger le roi à garder le lit et l'empêchant de monter à cheval ou de chasser à sa guise. Patiemment, Louis XIV subit l'application de cataplasmes, de suppuratifs, de pierres à cautère sur l'abcès ouvert, ou encore les lavements, les bouillons purgatifs, l'injection d'eau vulnéraire ou phagédénique, et bien d'autres remèdes souvent douloureux et inexorablement vains. À cette époque, en effet, la chirurgie souffre encore de mauvaise réputation. Comme au siècle dernier, les médecins de la faculté surpassent en prestige les membres de la corporation des barbiers qui manient le bistouri. Pourtant, voilà, le roi de France lui-même doit se rendre à l'évidence. Aucune de leurs prescriptions savantes n'a su venir à bout de sa fistule anale. Le seul qui va y parvenir, et avec l'art et la manière, se nomme Charles-François-Félix de Tassy. À 51 ans, il n'est pas le premier chirurgien du roi par hasard. Il a succédé dans cette charge à son père, François-Félix de Tassy, décédé 10 ans plus tôt. C'est lui qui lui a transmis sa passion et ses connaissances du métier. Mais ce n'est pas uniquement grâce à son nom que Félix, comme on l'appelle parfois simplement, devient prévôt de la communauté des chirurgiens de Saint-Côme, puis chef de la chirurgie du royaume. Sa place, il la doit avant tout au sérieux et à l'habileté dont il a fait preuve au cours de sa formation dans les hôpitaux de Paris et des armées. Après avoir obtenu le titre de maître chirurgien, Charles-François Tassy, comme on l'appelle aussi, a construit seul sa renommée par son talent à soigner les plus grands seigneurs de la cour. Malgré son expérience, cependant, jamais le chirurgien n'a été mis à l'épreuve autant que pour la grande opération qu'il s'apprête à conduire. La fistule profondément installée dans le fondement de Louis XIV l'a même obligé à innover. Pour la traiter, il a conçu un bistouri spécial dont la lame recourbée à la royale, dit-on depuis, a été prolongée d'une sonde incurvée elle aussi. Introduite le long de la fistule à l'aide d'un écarteur non moins impressionnant, elle devrait permettre de l'ouvrir et de la retirer définitivement des organes infectés. Pas question évidemment d'éprouver ce nouvel instrument sur la personne du roi. Avant de s'attaquer à la tumeur qui ronge les intestins de Louis XIV, Charles-François Tassy a pris la précaution de s'exercer sur pas moins de 75 fistuleux des hôpitaux de Paris et de Versailles. Le voici maintenant prêt. Bistouri à la main, il se tient aux côtés du monarque de droit divin, placé sur le bord de son lit. Louis XIV n'est pas anesthésié, naturellement. Cette révolution médicale n'a pas encore vu le jour. Alors, pendant que le chirurgien fait son œuvre, il ne peut que se montrer stoïque et digne, soutenant la douleur avec, je cite Antoine d'Aquin, « toute la constance possible ». Le roi supporte si bien l'opération qu'elle perturbe à peine l'organisation de sa journée millimétrée. Son lever officiel n'est que légèrement retardé et le convalescent insiste même pour tenir conseil depuis son lit. Une heure après l'intervention réalisée par Charles-François Tassy, le monarque est saigné du bras, puis surveillé de près. Quelques semaines plus tard, au début du mois de janvier 1687, il est complètement remis. Enfin, on a su le délivrer de sa fistule. Et ce n'est pas à la médecine savante que Louis XIV doit sa guérison, mais à la chirurgie. Dans les mois qui suivent, le succès de l'opération se fait retentissant. Charles-François Tassy est décoré, anobli et richement récompensé. Et plus personne à la cour ne craint désormais d'affirmer qu'il souffre du même mal que Sa Majesté. Tous veulent se faire opérer de la même manière que l'a été le roi et certains courtisans, dit-on, vont jusqu'à réclamer un traitement identique sans avoir de fistule. Une mode incongrue, virant parfois à l'hystérie, qui aura néanmoins le mérite de faire considérablement avancer la pratique médicale. En élevant le rang de son premier chirurgien, c'est à la chirurgie que Louis XIV octroie ses lettres de noblesse. La discipline jouit d'un crédit inédit qui augmente encore lorsque Charles-François Tassy guérit le souverain d'un anthrax de la nuque en 1696. Après avoir prodigué les meilleurs soins à son patient royal jusqu'à la fin, le premier chirurgien de Louis XIV meurt le 21 mai 1703 à l'âge de 68 ans, c'est-à-dire avant Louis XIV. 28 ans plus tard, le rayonnement de ses brillantes interventions incite Louis XV à autoriser la création d'une société académique chirurgicale qu'il renomme l'Académie royale de chirurgie en 1748. La place de la chirurgie dans le monde de la médecine est définitivement acquise.
Europe 1, historiquement vôtre.